Bonjour, c'est le plus grand et peut-être le plus vieux complot du monde, le complot du compl des complots, le complot qui explique tous les autres. Une société secrète créée au XVIIIe siècle, dissoute mais reconstituée officieusement, s'applique à construire un nouvel ordre mondial dans le plus grand secret. Le nom de cette société secrète, les Illuminati, et c'est forcément vrai puisque des vidéos le disent sur Internet. Une preuve supplémentaire que c'est vrai, eh bien, les adolescents y croient, comme nous le révélait l'an dernier une enseignante sur ce plateau. Et on peut avoir une idée de la proportion d'élèves que vous estimez croire à la réalité, à l'existence d'un gouvernement des Illuminati parmi tous les élèves que vous avez. C'est, non, mais je veux dire, c'est
Plus de
très,
la
très.
moitié.
Pardon?
Plus de la moitié, je pense. Sur une classe de seconde bac pro, plus de la moitié des élèves y croient.
Alors, quelle est exactement la base de ce récit? Comment cette croyance dans le pouvoir des Illuminati s'est-elle perpétrée à travers les siècles? Comment s'est-elle modifiée? C'est ce que nous allons voir avec Robin Andraka et notre invité unique de cette première émission de notre série d'été consacrée à tous les complots.
C'est ça, Yves Pagès. Donc, vous êtes écrivain, vous dirigez la maison d'édition Verticale, donc qui appartient au groupe Gallimard, et vous avez publié en juin 2015 un long papier très documenté dans la revue du Crieur, qui est édité donc par Mediapart, où vous démontez ce que vous appelez le pseudo-complot Illuminati et où vous tentez de comprendre comment cette théorie a pu traverser les siècles du 18e à aujourd'hui, en gros.
Et alors, la première révélation de votre article, c'est que les Illuminati, ça existe. Et que ça existe depuis le 18e siècle. Donc, le mouvement naît au 18e.
Oui, et là peut-être qu'il y a des lacunes dans les cours d'histoire qu'on donne justement à nos chers adolescents, c'est que les Illuminati, parmi des centaines d'autres petites confréries de type maçonnique qui naissent au 18e siècle, là c'est en Bavière. Il y a sûrement un intérêt au fait de voir qu'en Bavière, c'est une région à majorité catholique à l'intérieur de l'Allemagne par rapport à ça. On pourrait rentrer dans des.
Dans une Allemagne protestante, oui.
Dans une Allemagne protestante. Bon, il s'avère qu'il faudrait juste rappeler parfois ce qu'est la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. La franc-maçonnerie, dans un ordre d'ancien régime où il est interdit de professer quelque opinion que ce soit divergente de celle imposée par l'obscurantisme chrétien. Eh bien, en fait, c'est des gens, s'ils se cachent, s'ils se cachent pour parler, pour discuter, pour etc., c'est parce que on est obligé de faire des sociétés secrètes, sinon on est arrêté, sinon on va avoir des interdictions professionnelles, etc. Donc, en fait, la maçonnerie, au départ, c'est pas des gens qui font des choses occultistes, incroyables, etc. C'est des gens qui, dans une situation, on dirait, ça serait un anachronisme, de situation despotique ou totalitaire, bon, comme dans les pays de l'Est, les gens, ils se réunissaient assez secrètement pour arriver à avoir des opinions contraires. En l'occurrence, en 1776. Il y a Adam Weishaupt, si je prononce correctement.
Voilà. Le jeune homme qu'on voit apparaître sur ces images.
Adam, ouais. Qui n'est pas le premier homme, mais qui est un de ces survivants de cette longue chaîne. Bon, voilà, c'est visiblement sûrement quelqu'un qu'on appelle un esprit un peu éclairé, contre le despotisme. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui probablement sont athées. Beaucoup d'autres ne le sont pas, mais ont des critiques à faire sur un certain nombre de choses. Et là-dedans, évidemment, on a une partie de la bourgeoisie éclairée. Donc,
voilà, ça s'inscrit pleinement dans le mouvement des Lumières du XVIIIe, en fait.
Évidemment.
On est en plein dedans.
Évidemment.
D'ailleurs, Lumière, Illuminatif, voilà.
De toute façon, c'est l'idée d'éclairer une société qui est tyrannique, despotique, selon plus ou moins, quoi. Voilà.
Bon, alors, au début, un tout petit groupe, ils sont cinq. Et puis, très vite, ça fait boule de neige.
Voilà, ça fait boule de neige. Ils font alliance avec d'autres maçonnerie au nord de l'Allemagne en territoire plus protestant. Bon, et jusqu'à un moment donné où on dit que Goethe a fait partie de ça, etc. Mais c'est surtout, voilà, à un moment donné, ça atteint probablement une taille limite qui commence à inquiéter
plusieurs centaines de personnes.
Voilà, quelques centaines de personnes. Le Théodore, ou je ne sais pas comment il s'appelle, de Bavière, là, le Théodule, ou qui
c'est
dirige.
Charles Théodore de Bavière.
Charles Théodore, il s'en inquiète.
Ouais.
Sa police politique l'informe qu'il y a des réunions. Lui, il s'en inquiète parce que s'il y a, non pas des conjurations, mais ces clubs de discussion, etc., il y a un danger. Il y a un danger.
Ah, oui, il y a des gens
qui réfléchissent.
Il y a un danger pour son pouvoir, c'est tout. C'est des rapports là, de puissance à des germes oppositionnels.
Alors là, par contre, je crois que l'image est un peu anachronique.
On est pixelisé, ce Théodule, là.
C'est lui, là ?
Non, je ne sais pas.
Non, parce que là, on n'est pas au 18e, là. Hein. Si j'en juge par l'événement. Ah,
je ne sais pas où il en est. Il ressemble un peu à mon grand-père, mais...
Alors, coup d'arrêt à la Révolution.
Ben, ensuite, cette secte est dissoute, si on peut l'appeler secte, enfin ce groupe, cette confrérie. Et puis, alors, c'est des coïncidences historiques, on y reviendra. La date de naissance de ce groupe, c'est la même date de naissance de la Déclaration d'indépendance de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique. Mmh. Ça va faire délirer les gens. Là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que 13 ans plus tard, il y a la Révolution française. La Révolution française qui va inquiéter toutes les dynasties monarchiques de l'Europe. Et donc, à ce moment-là, tout simplement, il va y avoir... La personne ne parle d'Illuminati en 1789, 91, 92, fin des privilèges, tout ça. Personne n'en parle. Mais dès, dès les années 97, je crois, etc., à la fois en Angleterre, en Écosse plus précisément, et en France, il va y avoir des membres, très probablement on appellerait aujourd'hui des intégristes du clergé, soit protestant, soit catholique, toujours des deux côtés, hein, c'est très important, qui vont commencer à dire « Ah, mais en fait, la Révolution française, cette chose horrible qui a détrôné un roi et donné le mauvais exemple à toutes les populations asservies d'Europe et qui, par certains côtés, n'a pas dit « Dieu n'existe pas », c'est pas vrai, c'était pas globalement athéiste, hein, mais a commencé à critiquer un certain nombre. Certains y croyaient au grand architecte, donc ils croyaient qu'il y avait quand même peut-être une puissance, une transcendance.
L'être suprême.
Enfin, voilà, l'être suprême.
Non, mais c'était pas vraiment clergé friendly, la Révolution française.
Ah, du coup, de toute façon, c'était clairement... Donc, en fait, on commençait... Il y a deux livres importants là, qui, dans cette toute fin du XVIIIe, qui vont commencer à faire une interprétation paranoïaque qui dit « La Révolution française, en fait, c'est une conjuration qui est née là. » Alors, il est évident que le français...
Alors, attendez, on accuse quand même des grandes figures révolutionnaires, Mirabeau, Talleyrand et tout, d'avoir été des Illuminati. On a des preuves. Ils ont été ou ils n'ont pas été ?
Non, tout ça, évidemment non, puisque les Illuminati, ça s'arrête en Bavière dix ans après sa création. Donc ensuite, les Mirabeau en question et tout ça, ils étaient peut-être dans d'autres confréries avec lesquelles ils discutaient, ils lisaient les encyclopédistes, ils étaient dans un même processus parallèle. Le début du délire conspiratif, c'est de penser qu'il n'y a qu'une seule cause, comme nous l'a montré. C'est-à-dire, il refuse tellement le côté multifactoriel des choses. Il y a plein de maçonneries à cette époque-là qui sont des endroits dans lesquels nous tous à cette table, on aurait adhéré. Moi, je suis pas maçon du tout, mais on aurait adhéré à cette époque-là parce que c'était la seule manière d'avoir une causerie oppositionnelle à des régimes politiques qu'on jugerait aujourd'hui totalitaires.
D'accord. Alors, on fait un tout petit saut dans le temps. Au 19e, le délire anti-illuminati rejoint l'antisémitisme. Rejoint la croyance dans un complot juif.
Absolument.
Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça ?
Alors, ça, c'est André Taguieff qui a pas mal bossé là-dessus. Je pense que parfois, il a un peu exagéré l'importance des choses. Mais incontestablement, au XIXe siècle, en France, le truc des Illuminati rentre un peu en semi-sommeil, hein, parce que ce n'est pas du tout encore un complot dominant dans l'imaginaire complotiste. Mais en effet, il y a une jonction qui est très, très importante, c'est la jonction maçonnique en général avec juif. Alors ça parcourt en effet toute l'histoire du 19e français jusqu'à la France juive de Drummond. J'ai repéré dans la France juive de Drummond, je suis allé chercher sur le PDF complet, les Illuminati, c'est une page. Donc c'est
alors,
pas central.
La France juive de Drummond, dont on voit ici la couverture d'une des éditions, parce qu'il y a eu d'innombrables éditions, il faut rappeler que c'est un
librairie.
Considérable best-seller de la fin du 19e, bréviaire de l'antisémitisme. Et donc, naît la croyance dans un complot judéo-maçonnique.
C'est le judéo-maçonnique.
Et donc, judéo-illuminati, d'une certaine
manière. Judéo-maçonnique, mais où le terme d'illuminati, j'ai vérifié dans le bouquin, ne prend qu'une page. Mais tout d'un coup, on commence à dire que Adam, le Adam tout à l'heure, est juif. Ce qui est d'abord faux, tout simplement, parce qu'il était dans une école de jésuites, il est vraiment gâteau. Oui. Mais on commence à le mettre. Mais ce n'est pas encore très dominant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, parce que c'est vraiment quelque chose qui a traversé très vite l'Atlantique, aux États-Unis, par contre, il commence à y avoir, aux États-Unis, où incontestablement, l'indépendance américaine et la révolution américaine, qui est une autre forme de révolution que celle qui a eu lieu en France, oui, il y a eu plein de gens qui étaient eux aussi dans des confréries, dans des choses comme ça, etc. Et donc, il commence à y avoir, dans les luttes entre les démocrates et les conservateurs locaux, il commence à y avoir des accusations d'illuminisme, mais qui sont même plus explicitement dites aux États-Unis qu'en France. Hein, et en fait, on va s'apercevoir que c'est vraiment en traversant, en rentrant dans le domaine anglo-saxon, qu'elle va avoir un essor énorme, cette légende totalement parano.
Alors pendant tout ce temps-là, c'est-à-dire pendant, on va dire, la majeure partie du XXe siècle, la croyance dans les Illuminati est une croyance clairement située à l'extrême droite.
Alors absolument, absolument. Ouais. Il n'y a aucun problème, puisqu'en fait, les dates clés vont être tous les épisodes révolutionnaires suivants, donc qui vont être de la Commune de Paris, et puis pendant la guerre de 14-18, la Révolution bolchévique. C'est là où tout d'un coup, alors là, véritablement, la Révolution bolchévique agit comme exactement le 11 septembre, on y reviendra tout à l'heure. C'est-à-dire que là, c'est un espèce de marqueur historique absolument énorme. Mmh. Et là, tout d'un coup, le judéo-maçonnisme, tout d'un coup, et devient, dans cette duplicité incroyable, il domine le monde par l'argent, et en plus, il fomente des révolutions. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment un masque à deux visages qui provoque à la fois la subversion et en même temps l'asservissement du monde, qui est, on le sait, ce qu'on retrouvera dans toutes les idéologies d'extrême droite, et en particulier dans le national-socialisme hitlérien, qui a toujours joué sur les deux tableaux. C'est les Rothschild, c'est les qui dominent le monde, et en même temps, c'est eux qui font les révolutions bolcheviques pour détruire, par exemple, l'Empire ou l'existence de l'Allemagne, etc. Donc, ça va monter. Là encore, je le souligne dans l'article, j'en étais moi-même extrêmement surpris. Vraiment, les gens qui vont focaliser sur les Illuminati à cette époque-là, c'est d'abord des femmes en Angleterre, deux théoriciennes femmes, membres du British Fascist Party, parce qu'il y a eu un fascisme anglais.
Ça a un sens, que ce soit des femmes?
Ben, non, mais c'était pour dire que c'était pas forcément que les hommes qui sont dans ces pensées quand même, on va dire, du satanisme, parce que, en fait, les anglo-saxons amènent très très vite l'idée du satanisme, qui n'était pas si présent que ça, finalement, chez Augustin Baruel, le premier curé à avoir créé cette idée des Illuminati complotistes faisant la Révolution française. Et avec donc un discours, en fait, un peu sataniste, un peu ésotérique, un peu étrange. Et puis, on va en retrouver au Canada anglophone, et on va retrouver beaucoup aux États-Unis.
Discours sataniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense que les Illuminati sont manigancés, manipulés par des puissances sataniques.
Donc, ça veut dire qu'en fait, qu'on remonte très en amont de la date de création de cette secte, l'un des éléments de ce discours est de dire « Ah non, mais cette secte, non seulement elle a continué jusqu'à nous, mais en plus, mais elle remonte à Babylone.
D'accord.
Elle remonte indéfiniment et elle remonte à Satan, la lutte du vrai Dieu, et c'était marqué dans la vidéo de tout à l'heure, et du faux Dieu, satanique, qui est donc un des déploiements qui probablement, c'est mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, est un peu lié au protestantisme évangéliste anglo-saxon, pas forcément le luthérien ou notre protestantisme à nous, très minoritaire et humaniste, mais à une autre tradition qui va beaucoup donner d'importance au diable.
D'accord. Et puis alors, patatras, début du 21e, hein, on progresse dans le temps à grandes enjambées, début du 21e, cette croyance, c'est une croyance située à l'extrême droite, se retrouve dans des milieux plutôt situés à l'extrême gauche ou du côté des opprimés, c'est-à-dire notamment chez les Noirs américains.
Alors ça, c'était en fait, moi, c'était un peu le but de mon... Le but de mon travail, en fait. Je voulais sourcer, je voulais comprendre, autant qu'on puisse suivre... finalement, cette pandémie de croyances et ce marketing viral du complotisme, c'est assez difficile à suivre. Je voulais comprendre comment, dans les années 60, on a passé quelques étapes, les ufologues cinglés, avec l'histoire de Roswell, etc. Enfin bon, tout ça, et petit à petit, c'est vrai que le délire Illuminati synthétise pas mal des choses qui sont en effet tous de l'extrême droite américaine. Et puis comment ça a pu rentrer dans la culture hip-hop? Donc moi, je propose des hypothèses, c'est évidemment pas possible, je fais le Columbo un peu de l'affaire. Donc j'essaye de voir à la fin des années 60 les différentes nébuleuses du Black Power, allant évidemment de la lutte pour les droits civiques, etc. Comment ça a pu infester ce milieu-là? Je fais une hypothèse, hein, qui est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais qui est critiquable, mais qui est qu'il y a, contrairement à ce qui nous est parfois présenté au début des années 70, une défaite du mouvement noir américain, une défaite extrêmement violente, et en particulier du mouvement noir politisé qui fait une querelle aux gouvernants de l'Amérique, qui est une querelle sociopolitique. Ces gens-là seront décimés, les Black Panthers ont été décimés, massacrés, hein, en prison, tués dans les rues, etc. Sur le fond de cette défaite d'un discours politique, qu'Angela Davis, par exemple, incarne toujours aujourd'hui, eh bien, il y a eu l'émergence de Nation of Islam, d'un certain nombre de choses qui sont un peu ésotériques, un peu de conversion à l'islam, un peu de panafricanisme nationaliste assez étrange. Et en effet, dans ces milieux-là, de façon encore hyper minoritaire, il commence à venir le venin de « on est dirigé par des judéo-maçonniques », etc. Ce qui n'est quand même absolument pas le discours que tenaient les Black Panthers. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas résiduellement dans toutes ces consciences-là, mais dont il faut se souvenir à cette époque-là, c'est l'incroyable alliance des jeunes blancs radicaux et entre autres de l'intelligentsia étudiante juive, qui était extrêmement impliqué dans le mouvement des droits civiques noirs,
proche. Là, vous parlez de la période des Black Panthers, donc avant leur défaite. Hein. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'avant la défaite des Black Panthers, et quand les... voilà.
C'était très fort, et puis finalement, au milieu des années 70, tout le mouvement noir politisé américain, mais étant déliquescence, c'est fini. Il y a la répression, hein, on n'imagine pas, c'est une répression qui a fait plusieurs centaines de morts. Et des milliers de gens en prison. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il reste une émergence contre-culturelle qui va donner le mouvement du street art, du hip-hop, etc. Et qui se fait sur fond d'une défaite. Hein, donc sur une fond d'une résignation, sur une fond d'une, voilà, d'une blessure et du ressentiment qui va avec, avec les survivants de tous ces trucs-là qui sont au mieux l'idole défunte Malcolm X, au pire celui qui lui succède à Nation of Islam, Farah Khan, qui est un antisémite outrancier, etc., et qui donc va dans un sens complètement contraire aux alliances des années 60, aux alliances politico-sociales, ou ethniques, j'aime pas ce mot-là, des années 60. Et c'est vrai que si on regarde très très précisément, même Afrika Bambaataa, moi, qui est quelqu'un que je trouve très important, qui a créé la Zulu Nation et tout ça, qui est très important à la naissance du hip-hop, et pour lequel moi j'ai de l'admiration, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, il crée des espèces de toute une imagerie qui, petit à petit, va devenir à la fois anti-Illuminati ou se faire traiter d'Illuminati lui-même. Donc, dans des choses, parce que ça devient compliqué.
Alors la croyance dans les Illuminati, c'est des images, c'est de la culture, c'est notamment tout ce qui est issu de la culture hip-hop. On va y revenir dans une seconde. C'est aussi des mots, et notamment ces fameux mots de nouvel ordre mondial. Et ce slogan du nouvel ordre mondial, il a une origine historique très précise.
C'est ça. Donc, on est le 6 mars 91. Donc, Bush, président américain, Bush père, prononce un discours devant le Congrès américain. Mais alors, non pas pour annoncer sa volonté de dominer secrètement le monde, mais pour se féliciter d'une victoire militaire. Donc, la victoire militaire des Nations Unies contre l'Irak de Saddam Hussein, accusé à l'époque d'avoir envahi et annexé le Koweït. Donc, le papa de George W. évoque alors effectivement, à plusieurs reprises, la possibilité d'un nouvel ordre mondial devant le Congrès. On regarde à quoi ça ressemble.
A new partnership of nations has begun, and we stand today at a unique and extraordinary moment. The crisis in the Persian Gulf, as grave as it is, also offers a rare opportunity to move toward an historic period of cooperation. Out of these troubled times, fifth objective, a new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. Once again, Americans have stepped forward to share a tearful goodbye with their families before leaving for a strange and distant shore. At this very moment, they serve together with Arabs, Europeans, Asians, and Africans in defense of principle. And the dream of a new world order.
Et alors, trois mots, nouvel ordre mondial, qui vont connaître une postérité extraordinaire.
Alors, ça connaît une postérité. Je pense qu'il faut reprendre cette date de 1991 et l'articuler avec ce qui s'est passé deux ans plus tôt, la chute du mur de Berlin. Hein, c'est-à-dire que là, on est dans un moment historique, en effet, qui fait rupture, qui est énorme, qui est la soi-disant fin de l'histoire et la soi-disant fin des idéologies, qui est, de mon point de vue, un discours idéologique, mais... N'empêche que c'est quelque chose qui a marqué énormément les esprits. En tout cas, la fin de la dialectique de la guerre froide, où on a un ennemi, et puis, etc. Et puis, deux ans plus tard, il faut bien trouver un nouvel ennemi. Donc, on prend un ancien vassal, M. Saddam Hussein, et on le corrige, parce qu'il a envahi un pays qui n'existe pas, le Koweït. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que là, on est au cœur de quelque chose qui expliquerait, je dirais presque anthropologiquement, le complotisme. C'est-à-dire, on est face à la disparition d'une logique, en tout cas, d'affrontement ou de conflictualité qui était ordonnancée là par les États-Unis. Et finalement, c'est à ce moment-là que, quand il n'y a plus cet espace, en tout cas, qui est un espace critique, hein, ou en tout cas, ça comble un vide. Le délire devient le délire complotiste comble un vide de la conflictualité. Hein. Je n'irai pas tellement plus loin. Ensuite, tout ça se discute, mais il est clair. Qu'à ce moment-là, le lien complotiste est hilarant, c'est-à-dire qu'en effet, le président américain des années 30 avait fait marquer en latin sur les billets de dollars Novellus, Orbus, Mondialus. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que je suis très très nul en latin. Là. Non, Novus, Ordo, c'est Coolarum.
Alors, c'est où ? Ah oui, c'est sous la pyramide,
etc.
Novus, Ordo, c'est Coolarum.
C'est Coolarum. Et alors ils disent. Mais alors, c'était le Roosevelt qui, lui, était un affreux ou l'Illuminati de gauche. Et puis, alors maintenant, on a bouclé la boucle. Maintenant, on a l'affreux Illuminati de droite.
Yves Fagès, je suis désolé. Moi, je veux dire, je vois l'image, je vois cette pyramide, je vois l'œil maçonnique ou l'œil Illuminati ou ce que vous voulez au sommet de cette pyramide. Qu'est-ce que veut dire la présence de ces signaux sur le billet d'un dollar ? Ne vous cachez rien, s'il vous plaît.
On est au cœur de la chose. On est au cœur de la chose. Si George Bush est vraiment le leader des Illuminati, la tendance droitière des Illuminati, disons, si, parce qu'évidemment, les Illuminati, il doit y avoir des conflits à l'intérieur, il va pas aller dire devant tout le monde le nouvel ordre mondial. Et ça, parce que c'est quand même... Normalement, si on est chef d'une secte
secrète.
Bon. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que ce billet ?
Alors, pourquoi
les États-Unis sont fiers depuis leur déclaration d'indépendance. Il n'y a aucune tradition de secret sur le maçonnisme aux États-Unis, contrairement à la France. Il n'y a pas de tradition de secret aux États-Unis. Les gens sont fiers. Thomas Jefferson était franc-maçon. Et alors, c'est grâce à eux qu'on a fait une révolution dans le calme et la paix pour les bonnes valeurs humanisme
et donc,
du maçonnisme.
Cette image.
Et donc, ce sont en effet tous les signes de toutes les maçonneries qui ont existé dans l'histoire du monde. La pyramide, l'œil, de la connaissance, tout ça qui sont des signes positifs, des espèces de signes de reconnaissance de la sagesse, du savoir, de l'humanisme, etc., qui sont totalement assumés comme tels sur le billet. C'est-à-dire, quand on fait semblant de redécouvrir c'était un signe secret, cabalistique, des Illuminati. Mais non, c'est un truc assumé comme étant des signes maçons qui ont, les maçons ayant été, comment dire, pour eux, les éclaireurs qui leur ont permis de cette magnifique réussite fédérale et nationale, celle des États-Unis. Ils en sont fiers. Les États-Unis, proud of being maçons, quoi. C'est, pour eux, il n'y a aucun problème à ça. Ouais. Donc, en fait, c'est à chaque fois le truc complotiste, c'est d'essayer d'enfoncer des portes ouvertes un peu. Oui, les maçons font partie de l'histoire, donc c'est pas un symbole caché qu'on redécouvre.
C'est un des symboles qui revient le plus dans tous les clips.
Bien sûr.
Et on va les voir dans deux secondes. Alors, date très importante, plusieurs dates hein, clés, la chute du mur de Berlin, la guerre du Golfe et le 11 septembre 2001 aussi.
Oui, ben je pense que de toute façon, très clairement, les Illuminati deviennent ce que j'appelle moi un méta-complot, c'est-à-dire commencent à unifier, à synthétiser tous les délires sur les extraterrestres, des machins, il y en a des kilos. Hein. Ils commencent à devenir le complot des complots, c'est-à-dire là, si on parlait en termes de fiction, hein, voilà, l'espèce de méta-organisation du roman, quoi, on va dire, parce que ça, c'est quand même un roman, tout ça. Et c'est vrai que ça se passe, à mon avis, entre 89 et 91. Et le 11 septembre, et alors là, le 11 septembre, c'est la validation. C'est-à-dire que là, c'est la grande validation, parce que c'est vrai que, incontestablement, apparemment, il n'y a jamais de fumée sans feu, non pas au sens pour valider le truc Illuminati, mais quand on sait qu'en effet, la famille Ben Laden, au sens large, était extrêmement proche pour des relations pétrolières avec la famille Bush, qu'en effet, certains autres membres de la famille Ben Laden ont été exfiltrés le lendemain alors que les avions ne pouvaient pas sortir, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vrai et qui est reconnu par les États-Unis. Bon, ben, on se dit, soit un esprit critique va dire, l'autre Ben Laden, d'ailleurs, c'est le mouton noir de la famille qui veut devenir calife à la place du calife, comme les salopards, là, les Daéchiens, là. Mais c'est des histoires de conflits internes familiaux dans ces espèces d'horribles nouveaux riches bling-bling que sont les familles des Émirats. Mais soit on fait une critique comme ça, calme, soit tout d'un coup, on se dit, il n'y a pas de fumée sans feu, tout ça. Puis on a le truc des Illuminati qui arrive, et puis soi-disant, les avions, ils ne sont pas tombés, ou je ne sais pas quoi.
Et puis même, les avions, on saurait même sur le billet de 20 dollars. Aussi. Ça veut dire que là, en fait, c'est le billet de 20 dollars, et si on le met dans ce sens-là, vous voyez, ça ressemble aux avions qui s'écrasent sur les deux tours.
C'est drôle, ça.
Non, mais les billets américains posent vraiment problème.
Ah, mais je ne connaissais pas cette idée-là. Oui, puis j'avais vu aussi que le New Yorker, journal, dire un peu gauchiste américain, magazine très à gauche américain, ils avaient fait une couverture sur deux châteaux de sable en forme de Twin Towers avec un gamin qui sautait dessus. Ah ah. Donc ils étaient peut-être un peu au courant, etc. Non, mais bon.
On arrive donc dans cette période d'après 11 septembre, c'est-à-dire dans laquelle on est encore aujourd'hui, ces 15 dernières années, dans lesquelles, effectivement, les allusions, les symboles Illuminati emplissent notamment les clips musicaux.
C'est ça.
Robin, alors.
Bon, alors oui, il y en a des tas, effectivement. Quand on recherche sur une simple recherche sur YouTube, c'est simple. À peu près tous les artistes de hip-hop ou de rap américain ont l'air d'être Illuminati. Donc on aurait pu en sélectionner des dizaines, vraiment. On a pris Rihanna. On va prendre.
Parce que vous voulez avoir une forte audience, donc vous avez mis Rihanna.
Vous avez tout compris.
Non, parce que c'est une de celles qui revenait le plus. Donc on regarde un clip de Rihanna et on regarde.
Mais pas n'importe quel clip de Rihanna. Un clip de Rihanna annoté.
C'est ça. Ouais. Voilà. Où il y a eu des modifications. Donc, un internaute qui montre image ralentie et montage à l'appui.
Super.
Pourquoi Rihanna est une Illuminati.
C'est fini? Oui, voilà. Des... la tête de chèvre, je ne suis pas persuadé que ce soit non,
là,
absolument
flagrant. Tu vas chez des ophtalmos, là.
Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que des vidéos comme ça, fabriquées par des internautes, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'internautes, alors des vidéos comme ça, il y en a des milliers sur la toile et sur toutes sortes d'images, comme par exemple sur les films de Disney aussi.
Ah oui, voilà. Alors, sur les films de Disney, et c'est des vidéos qui font des millions de vues, hein, parce que le montage est un peu sommaire, la grammaire aussi, mais ça fait vraiment des millions de vues. Donc, ils voient absolument des signes Illuminati de partout. Donc, chez Disney, par exemple, alors surtout des signes sexuels, ça se confond souvent, signes sexuels ou sataniques. Donc là, par exemple, on voit Monstres et compagnie. Donc, on voit un petit dessin où, voilà, on zoome. Pareil, sur la tresse de réponse où il serait dessiné le mot sexe, en fait. Alors là, c'est les signes qu'on retrouve chez Sarkozy et Obama. On les retrouve aussi chez les personnages de Disney. Donc, la belle Cendrillon. Bah, Cruella, évidemment. On retrouve ça aussi chez Blanche-Neige, chez le Capitaine Crochet, bien évidemment. Voilà. Voilà. Donc, on peut voir des signes Illuminati partout. Mais alors, du coup, il faut les lire à quel degré
ces vidéos ? Non, mais ça, c'est un stade... Je dirais que ça, c'est le...
Non, mais c'est des vidéos qui sont vues des millions de fois. Il faut les regarder à quel degré ?
La première que mon fils m'a montré, c'était celle-là.
Celle de Rihanna.
Donc ça, ces vidéos-là sont faites par des puritains fachos américains qui cherchent le sexe dans...
Il faut dire qu'à l'origine de cette valeureuse enquête que vous avez menée sur les Illuminati, il y a votre fils.
Oui, mais il y a mon fils. Et puis des gamins de l'âge de mon fils, il avait alors 12-13 ans. Ouais. Et j'en avais un peu marre qu'il y croit à 80%, parce que les pré-ados, ils croient jamais complètement à tout. Mais justement, d'ailleurs, quand ils en parlent un peu aux adultes, c'est pour un peu regarder, pour tester, pour voir. Voilà, donc moi, je suis pas dans un truc en disant « ils y croient tous, dur comme fer ». Non, c'est comment, finalement, comment on peut leur apporter aussi d'autres visions et comment on peut rétorquer à ça. Un pré-ado de 12-13 ans, c'est pas très facile. Parce que lui, finalement, c'est aussi une arme de déstabilisation du monde adulte. Il voit bien que le monde adulte, voilà, c'est aussi un côté punk, c'est aussi un côté... Mais non, mais il faut assumer le fait que c'est une façon de faire tâche et de dire « je ne crois pas à votre monde ». Votre monde, il est faux. Vous êtes dupes. Vous croyez plus malin parce que vous êtes adulte. Vous êtes dupes. Moi, j'ai la vérité. Donc, il faut pas non plus... Il faut à la fois prendre ça très au sérieux, ce qui est mon but.
Mais votre fils, quand il vient vous voir et qu'il vous montre toutes ces vidéos...
Je lui ai fait un débriefing.
Un présent de narration. Quand il venait vous voir pour vous montrer toutes ces vidéos, c'est dans quel état d'esprit ? C'est dans
papa, dis-moi si... Enfin, tu vois bien que c'est vrai. Puis j'éclatais de rire, il me dit. Ouais. Et puis, à un moment donné, ça l'énervait. Non, mais ça va, écoute, papa, dis-moi pourquoi ça serait pas vrai. Et là, il s'énervait un peu. Donc, ensuite, c'est des... Voilà, et puis ensuite, c'est la connivence des gamins entre eux qui se montrent le truc, mais pour qui c'est aussi une vaste blague. C'est-à-dire, c'est toute la complexité de la mythomanie enfantine, moi, qui est un sujet qui me touche en tant qu'écrivain par ailleurs. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que c'est parfois compliqué quand des sociologues ou des idéologues s'emparent de cette question du complotisme, comme Taguieff, qui est très idéologue, et qui va dire le complotisme est passé de l'extrême droite aux islamo-gauchistes, sous prétexte que ça existe, les islamo-gauchistes. Je suis pas très sûr que ça existe beaucoup, à part les indigènes de la République. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faudrait mettre là-dedans, c'est pour ça que je le cite au début de l'article, ce qu'avait fait, pour moi, qui est un travail majeur, ce qu'avait fait Edgar Morin sur la rumeur d'Orléans en 1969, où on soupçonnait des gens dans des magasins de fringues d'enlever, qui étaient tous tenus par des juifs, d'enlever dans l'arrière-boutique des jeunes filles pour faire la traite des blanches, etc. Aucun cas avéré n'a jamais donné lieu à une plainte. C'était dans la ville d'Orléans, la ville de notre célèbre pucelle qui fait l'identité française, qui plaît tellement
à
Macron, Le Pen, enfin je ne sais plus si c'est de la même famille.
On s'égare.
Et on s'égare. Mais non, parce qu'en fait, lui, finalement, il avait dit, bien sûr qu'il y a un relent d'antisémitisme à la française, mais ce n'est pas ça la bonne piste à comprendre. Ça existe, ça, cet aspect-là, mais il y a quelque chose de beaucoup plus évident. Il y a eu 68 il y a un an. 68, c'est la destruction d'un carcan moral. C'est l'arrivée de la pilule, c'est l'arrivée de tout ça. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a ce rapport ambivalent et fantasmatique des ados qui délirent sur « ça y est, c'est la sexualité débridée, et puis la prostitution, etc. » Et les mères qui disent « c'est horrible, on nous viole et on nous vole nos filles, etc. » Donc, en fait, il y a du fantasme derrière.
Et c'est ce travail d'Edgar Morin en 69 qui vous inspire dans la recherche que vous faites sur les Illuminati. Alors, évidemment, en y passant moins de temps que Morin, sans faire de bouquin, mais simplement un artiste. Oui, c'est votre modèle, d'une certaine
manière. Absolument, et moi, j'ai envie de comprendre le rapport ambivalent. Alors là, ce coup-là, plus des ados... Parce que c'est vrai que sur le champ de l'adolescence, tout ce que vous avez montré là, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule artiste aujourd'hui de hip-hop, mais bien sûr, qui va pas le faire. Mais à partir du moment où on le fait, c'est qu'on n'en est pas. Enfin bon, c'est évident. Non, mais il n'y a pas un seul artiste de hip-hop qui ne peut ne pas le faire parce que ça rapporte des millions de dollars de le faire. Donc tout ça n'a pas de sens.
Là où ça devient un peu compliqué, c'est que effectivement, donc il y a toutes ces vidéos où ils essayent de décrypter les signes Illuminati, mais ces mêmes artistes en fait se réapproprient ces mêmes signes. Pour justement que les complotistes y voient. Par exemple, c'est Katy Perry qui a fait un clip Dark Horses en 2013 où là elle récupère clairement les signes. Enfin, il y a l'œil.
La toule.
Dans les cheveux, il y a aussi les yeux. Il y a la pyramide en forme de boudoir. J'imagine que c'est des boudoirs.
Des pâtisseries.
Ouais. Des pâtisseries. Ouais. Et donc on la voit évidemment monter en haut de la pyramide. Alors quand on l'interroge, Katy Perry, évidemment, elle est pas Illuminati. Elle le dit. Moi, j'y crois pas du tout. Mais en l'occurrence, voilà, c'est.
Non mais les gamins par exemple croient dur comme fer qu'un des premiers rappeurs Tupac a vraiment comme il avait voulu faire un truc Illuminati en disant contre les gens parce qu'il y a cet aspect volonté critique c'est la critique d'un asservissement potentiel il faut pas oublier qu'il y a quand même où on le met l'esprit critique et où on le met surtout quand les idéologies sont mortes quand il y a plus que la consommation etc mais même les grands consommateurs de tout ça finalement, c'est pour moi, c'est une espèce de retour du refoulé critique qui essaye de se dire non mais ce monde il va pas quand même. Même chez dans le mainstream absolu des adorateurs de ça, c'est pas non plus des débiles les ados qui regardent ça. Et d'une certaine manière, ils y voient comme un message subversif. Épouvantable.
Sur Katy Perry, il y a aussi l'aspect que vous avez mentionné, mais qu'il ne faut pas oublier, qui est l'aspect commercial.
Elle, par contre, ses producteurs, eux, c'est des cyniques immondes. Mais de même que Dan Brown est un cynique. Scandaleux. Dan Brown, pour moi, c'est un odieux personnage. Parce que dans toutes les interviews, non seulement il écrit du thriller ésotérico-naze, moins bien que Umberto Eco, mais en dehors de ça, c'est pas ça. C'est que dans toutes les interviews, il sème l'ambiguïté. De toujours dire, mais j'y crois pas complètement, mais un peu, mais voilà, ils surfent sur le truc. Et là, vous pouvez voir en bande dessinée, en jeux vidéo, en machin, ils sont tous précipités là-dessus pour faire des choses. Et dans un commerce qui est d'un extrême cynisme, où on dit toujours, mais on y croit, mais on n'y croit pas. Enfin, en tout cas, Dan Brown, dans les interviews, moi j'en étais sidéré, parce que j'ai jamais tellement lu les interviews de ce personnage, il ne s'est jamais positionné en disant, c'est une pure fiction, je ne crois en rien de ce qui est dit là-dedans. Jamais il ne l'a dit. Parce qu'il sait qu'il tuerait une partie de la poule aux œufs d'or s'il faisait ça. Donc en effet, on sait bien que le capitalisme est une des sortes les plus. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la plasticité gymnique d'adaptation à tout. Donc c'est donc là, en effet, c'est emparé de ce désir parce que là-dedans, il y a du fantasme.
Et alors, pour achever de brouiller les pistes, encore en France, des artistes récupèrent les thèmes Illuminati, mais alors là, par conviction politique, y compris des artistes situés à l'extrême gauche, comme Kenny Arcana. Voilà,
Kenny Arcana, qui est une rappeuse française, donc d'origine argentine, qu'on a vu il y a pas longtemps. Place de la République, soutenir le mouvement Nuit Debout, qui en 2007, dans la chanson Imagine, parlait de communautés haute placées qui connaissent les recettes et de politiciens qui font partie d'une confrérie. On écoute à quoi ça ressemble.
Imagine qu'on ment depuis des siècles et des siècles, que certaines communautés haute placées connaissent les recettes. Les secrets de la vie, pas celles qu'on nous laisse voir, celles qui additionnent science et occulte, paix et espoir, comme si le chétan nous avait coupé, comme ton ombilical qui nous. Il y a Dieu sans nous des soldats déroutés, ignorants de notre mission abdicant. Pourquoi ils veulent pas dévoiler tous les secrets qui se cachent au Vatican? Imagine, viser les connaissances des peuples anciens, spirituellement élevés comme les Incas ou les Égyptiens. Le secret des atomes, s'ils pouvaient les manipuler, pour qu'on n'y croit pas, nous parle de magie au second degré, ridiculisé en Occident. Pourtant, tous nos politiciens font partie d'une confrérie, n'est-ce pas intriguant? Rituel, secret, connaissance, occulte, envoûtage, manipulation, phénomène de masse et maraboutage. Imagine. Le poids des secrets qu'ils ne veulent pas dévoiler. Imagine leur connaissance tellement utile pour nous manipuler. Imagine si l'occulte est bel et bien lié au gouvernement. Imagine alors l'influence qu'il exerce sur le monde.
Et alors là, moi, je suis un peu perdu. Est-ce qu'il est possible est-ce qu'il est possible de dire où on est là? On est dans l'exploitation commerciale du filon ou on est dans la conviction sincère?
Non, je crois qu'on est dans cette zone parce que là, je trouve que justement, c'est dans la période que on vit en ce moment là. Je crois qu'on manque parfois de nuances. La nuance, elle est. Bon, moi, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Donc, je veux dire,
ce qui n'empêche qu'elle peut essayer de gagner de l'argent.
Non, mais ce que je veux dire, c'est pas pour l'argent qu'elle a fait ça. Non, c'est pas dans une période où elle était la plus connue. Pas du tout. Ouais. Non, je pense que c'est une personne qui est très exactement dans la ligne d'ambivalence et de fluctuation d'un discours, elle a connu, des orphelinats, des traitements psychiatriques. Elle a un vécu hyper lourd. Elle a un côté spiritualiste un peu, voilà, qui, moi, en tout cas, me dérange pas qu'elle le pratique, mais me gave un peu. Et puis, elle a l'un des plus beaux phrasés du rap français. Mais c'est vrai que elle est dans cette zone d'ambivalence qui est, il y a de l'esprit critique en elle. Quand elle fait des choses sur la psychiatrie pour les enfants, elle dit des choses qui sont très profondes et elle fait l'éloge de la fugue et on a envie de pleurer. Et quand, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'elle est complètement prise dans ce truc, elle répète toujours le même mot dans ses textes quand elle veut aller au bout de son esprit critique subversif, c'est la matrice. Et voilà, et on est dans un discours qui, tout d'un coup, est porteur, et là, de façon quasi explicite, en effet, d'un résidu immonde de toutes, comment dire, de toutes les phobies, les raclures phobiques du XXe siècle, qui en effet à cette époque-là étaient à l'extrême droite. Mais là où doit être la nuance, parce que moi j'en ai un peu marre, c'est vrai, de ces discours sur ces islamo-gauchistes, etc. Ce que je veux dire, c'est à Nuit debout, par exemple, pour être très clair. Moi, quand j'entends trop de mélanchonistes un peu masqués, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire qu'ils le sont, mais enfin qu'ils le sont, qui ne sont pas tous les gens qui ont créé Nuit debout, mais une grande partie, et qui à longueur de soirée, il se passe beaucoup d'autres choses à Nuit debout, des comités d'action, plein de choses, moi, qui me plaisent, dans lesquelles je m'investis, mais alors le côté où on entend pour la 60e fois dans la même soirée l'oligarchie qui domine le monde, moi, je dis, il y a de la merde dans vos têtes. Il y a de la merde dans vos têtes, parce que le mot oligarchie employé comme ça, c'est un truc dans les années 30 qui était dans le discours de l'Action française. Donc, vous n'avez pas ce degré d'abstraction qui vous permet de pouvoir avoir une pensée critique qui ne commence pas à dire « ad hominem, il y a des conjurations, il y a une oligarchie, il y a des gens ». Ou comme…
C'est-à-dire que vous ne pensez pas qu'il y a une oligarchie qui domine le monde ?
Ah, pas du tout, non.
Alors, qui domine le monde ?
Moi, je pense
qui domine le monde ?
Je pense que… Alors là, aujourd'hui, le capitalisme est un canard sans tête. Est un canard sans tête.
Mais il peut quand même même sans tête, il peut quand même dominer le monde.
Il a des logiques systémiques. Et si on veut critiquer, ouais, ce qui est mon cas, puisque moi je suis de sensibilité anticapitaliste, libertaire, si on veut le critiquer, il faut avoir un autre type de discours que d'essayer toujours de mettre des nouveaux masques sur ses têtes et de dire cette tête, elle appartient à telle confrérie. D'accord. C'est absurde.
Donc le canard sans tête qui domine le monde, ça vous va ?
Non, il domine
ça,
pas.
Ça vous va ? Non.
Mais le monde, la logique sans tête de ce monde, par exemple la logique, la morbidité du capitalisme, qui en a besoin parce qu'il faut toujours qu'il détruise pour reconstruire parce que ça fait du fric, qu'il faut qu'il s'empare du complotiste, cette pensée, cette fêlure psychique. C'est une fêlure psychique, paranoïaque. Il faut qu'il s'en empare pour faire du buzz et du débuzz, parce qu'on fait du fric dans le tenant et dans les aboutissants. C'est la logique capitalistique. La logique capitalistique est amorale. Elle déracine toutes les éthiques, toutes les morales, toutes les valeurs.
Non mais,
l'air de rien, on se retrouve aujourd'hui avec une pensée critique qui est en grande partie tellement perdue dans sa réflexion, quelle qu'elle soit, les pensées critiques, ça peut être une pensée critique social-démocrate. Les social-démocrates, ils n'ont plus de pensée critique non plus. Hein. Donc, c'est pas que l'extrême gauche au sens général. Mais ce que je veux dire, c'est profondément, il faut, c'est mon but, hein, il faut extirper de la pensée critique possible, parce qu'on a le droit de critiquer ce monde, toutes ces choses-là qui sont en fait des désirs de maître, désirs, comme dirait Lacan, désir du maître,
Alors tout ça, on est tout à fait d'accord, c'est un désir du maître, c'est un désir de nommer le maître, de trouver un maître, de mettre un visage sur le maître. Alors comment on répond à ce désir de maître ? Qu'est-ce qu'on explique ? Qu'est-ce qu'on dit ? On dit il n'y a pas de maître ? Qu'est-ce que je veux dire
Pour moi, il n'y a pas de maître. Il y a des logiques. Par exemple, veut combattre la logique du management, on explique qu'elle est contre-productive et qu'on bosse vachement mieux dans une autodiscipline collégiale ensemble et qu'on peut l'inventer ensemble. Mieux travailler ensemble sans maître. Par exemple, ça s'explique pas en disant le maître de manager est un méchant gars qui, en faisant du manichéisme de bébé.
Est-ce que le désir de maître, il s'incarne pas aussi, par exemple, dans le slogan qu'on entendait à l'époque d'Occupy Wall Street, le slogan, il est 1%. Il y a les 1%
qui... Moi, ça me va pas.
Il y a les 1% les plus riches et il y a les 99%.
Je n'aime pas ce slogan. Moi, je parlerais de...
Pourtant, statistiquement, c'est vrai.
Statistiquement, c'est pile poil vrai. Mais c'était tout le problème dans les années 30, par exemple, quand le stalinisme français s'est mis à faire la chasse aux 500 familles. Bah, on comprend mieux que Doriot, qui dirigeait le PC de Seine-Saint-Denis, soit passé directement du côté de l'extrême droite. Parce que c'est une pensée faible. C'est pas les 500 familles, c'est pas quand on aura pillé leur appartement qu'on arrivera à mieux vivre, nous. C'est absurde, c'est une pensée faible. Et en effet, le 1% et tout ça, voilà, il y a un petit côté mnémotechnique qui est peut-être intéressant, mais c'est apprendre à vivre autrement et ensemble, et à repenser le bien commun. C'est pas s'obséder à vouloir lyncher les salauds ou à nommer les salauds. Ça, c'est pour moi, c'est du manichaïsme préadolescent. C'est pour ça d'ailleurs que ça marche vachement sur les préados. Parce que c'est des pensées quand même très très infantiles.
C'est une pensée faible. Est-ce que c'est une pensée pernicieuse? Parce qu'on se demandait avec Robin en préparant cette émission. Robin, c'est enquillé des heures et des heures de vidéos. Je sais pas si ça rend fou.
On rigole. On arrive à rigoler.
Il a relativement bien survécu.
Oui,
pour l'instant.
Jusque là,
parce que c'est drôle.
Pour l'instant. Mais enfin, la question qu'on se posait à la fin, c'était finalement pourquoi les empêcher de croire à ça? Je veux dire, pourquoi empêcher à toute force les pré-ados ou les ados de croire aux illuminatistes s'ils ont envie d'y croire? Est-ce qu'il faut les empêcher?
Parce que moi, en fait, j'ai deux... C'est ce que la pancarte que je brandissais quand je suis allé à cette manif malheureusement appelée « Je suis Charlie », qui est très, très malheureusement, parce que de façon très excluante, « Je suis Charlie », alors que ça aurait dû être « Nous sommes judéo-arabo-charlie ». C'est mon point de vue. Moi, j'avais une petite banderole avec marqué « Ni djihadiste, ni lepéniste ». Aujourd'hui, ce discours complotiste-là, c'est un discours qui fait de la machine à produire du petit néo-fasciste apolitique qui vont voter pour Marine Le Pen. Mais quand les gens disent « Mais il n'y a pas tant de fascistes dans les 35% qu'elle aura. » Mais il n'y avait pas tant de fascistes dans les 40%. Il n'a jamais fait plus sous élection d'Adolf Hitler. Enfin, il faut arrêter ce délire. Bien sûr que le noyau dur des gens vraiment complètement cinglés et skinhead est toujours très minoritaire. C'est pas la question. Ce que je veux dire, ça produit ça, et incontestablement, et là je n'évente rien, il y a aussi, de la part des réprouvés, des ostracisés des banlieues, il y a incontestablement, pour des gens qui sont d'origine maghrébine, etc., il y a une capacité à, je dirais, de façon pas forcément explicitement anti-judéo-maçonnique, mais à croire à cette chose-là, parce que là, ça les venge. Ça les venge de plein de choses. Et tout le problème, de mon point de vue, c'est transformer un ressentiment morbide, et dont la paranoïa, qui est une figure psychiatrique, la paranoïa extrêmement autoritaire, en fait. C'est horriblement autoritaire. Les paranos, ça fait les despotes. Et ben, de la transformer en quelque chose qui peut redevenir un esprit de critique sociale. Celui que, par exemple, dans les banlieues, il y avait en 1983, quand ils faisaient la marche pour l'égalité, avant que le Parti socialiste ne les empêche définitivement avec SOS Racisme de s'exprimer.
La marche des beurs. Alors, on peut faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire un papier dans la revue du Crieur, mais on n'atteindra pas les masses, on n'atteindra pas les banlieues avec la...
Mais grâce à vous.
Alors, déjà, grâce à nous, on va franchir un cap considérable. Alors, il y a d'autres méthodes, comme la vidéo, le clip, la parodie.
C'est ça.
Voilà.
Donc il y a aussi quelque chose que j'ai constaté en faisant des recherches, c'est que c'est très difficile de trouver du matériel sérieux en fait sur les Illuminati. Ça veut dire que l'équivalent d'un sujet de JT de votre article du Crieur, ça n'existe pas ou presque. On a retrouvé
Non mais je parlais pas de ça, je parlais de la parodie en fait.
D'accord.
D'ailleurs ça pose un problème. C'est moi je suis stupéfait. On a été stupéfait avec Robin de voir à quel point peu de gens sérieux se sont penchés sur le phénomène quoi. Aucun chercheur.
Dans le monde anglo-saxon un peu plus.
Oui, mais enfin,
en France. Si la culture populaire, de façon, les légendes urbaines, la culture populaire, c'est de la merde. C'est pas un objet d'analyse. La France est malade de son rapport. Les objets, ils doivent être nobles, ils doivent être littéraires, ou ils doivent être, etc. La culture populaire, aux États-Unis, il y a des chaires de folkloristes. Le folkloriste, c'est-à-dire l'étude du folklore, l'étude des cultures populaires, c'est enseigné dans toutes les facs du Canada et des États-Unis. Ici, ça n'existe pas.
Mais alors, non seulement aucune thèse, mais aucun documentaire télé. Alors, quasiment aucun sujet même de télé. Je veux dire, un seul sur M6, bon, voilà. Rien du tout.
Je m'en étais aperçu en faisant mon travail aussi.
Et ça paraît...
En même temps, par exemple, j'avais vu... Alors, moi, je ne suis pas très télé, malheureusement, mais j'avais vu quand même des parodies, par exemple, de discours parano, et qui étaient vachement bien faites, que je trouvais...
On va en regarder une, parce qu'effectivement, quand je pense sur le sujet, la meilleure façon d'en parler, on dirait que c'est de s'en moquer. Comme, par exemple, avec Kevin Razi, donc, qui est humoriste, et qui, sur sa chaîne YouTube, en 2014, a tenté de mettre en scène le quotidien de ces fameuses Illuminati.
Eh bien bonjour, je suis Franck Mercier, le président de la branche française du groupe Illuminati. J'avais envie de changer un peu l'image du groupe, le côté secret, complot, Je voulais juste montrer que derrière la société secrète qui tente de détruire l'humanité depuis des siècles, derrière cette société, il y a des hommes et des femmes qui ont un cœur et qui se retrouvent autour de l'amour du travail bien fait.
Alors c'est simple, la RH a prévu une réduction de pas moins 20% de la population chinoise sur 10 ans.
Eh ben c'est ambitieux. Vous comptez faire ça comment ?
Justement, on a développé un virus qu'on va développer à grande échelle dans 6 ans sur les îles. Et si ça marche bien, on l'étendra à l'Afrique naturellement.
Ouais, c'est quoi le concept ?
Couper les bites. Vous connaissez le rhume classique ? On en a développé un plus fort, plus puissant, qu'on a appelé le rhume A.
Non, l'idée est bonne, mais le nom est à chier.
On peut appeler ça la grippe A. Parfait, on prend la grippe A. Next.
Bon, c'est drôle, ça marche. Vous pensez que ce genre de choses est efficace?
Ouais, je pense, parce que j'avais vu aussi d'autres, je crois que c'était sur Canal, il y avait, alors c'était pas sur les Illuminati, mais c'est-à-dire
c'était le Bifort qui faisait...
Voilà.
Oui, il y avait une rubrique régulière dans l'émission Le Bifort.
Ça, super bien fait, parce que ça décrivait l'association d'idées, en fait, qui est une technique qu'ont utilisé, par exemple, les surréalistes ou d'autres poètes. Enfin, c'est vraiment de l'association d'idées pure, de signes, qu'on sursignifie, qu'on surdétermine. Et en effet, c'est en effet très ludique de montrer comment ça fonctionne, ce truc-là, et qu'en effet, c'est un jeu.
C'est ludique pour les gens qui le font, pour les producteurs, mais est-ce que c'est efficace ? Sur votre fils, est-ce que ce genre de truc, ça peut marcher ? Ou est-ce que ça aurait pu marcher ?
Oui, mais je pense que ce qui marche, c'est de grandir. C'est-à-dire que mon fils, il jouait à la Game Boy quand il avait 7-8 ans. Maintenant, quand il regarde une Game Boy, il a l'impression que c'est pour Mongol et pour débiles mentaux, plutôt que Mongol qui nous ont rien fait. Et c'est pareil, les Illuminati, maintenant, il en rigole. Il se dit, bon, non, c'était un truc, c'était une farce.
Donc finalement, pourquoi on s'inquiète ?
Ben, je crois qu'il ne faut pas totalement s'inquiéter. Ensuite, par exemple, de tous les parcours d'ados et post-ados qui sont partis pour ce qu'ils croyaient, pour beaucoup d'entre eux, moi je veux bien le croire, une aventure en Syrie pour un peu aider les civils ou je ne sais pas quoi, dont 60% d'ailleurs tentent de revenir ou meurent sur place parce qu'ils n'ont pas envie de se fader leur nouveau contremaître, là, cagoulé, là. Eh ben, l'air de rien, les trois quarts ou les 9/10, là, pour le coup, c'est un terrain de départ.
Pardon,
c'est un terrain de départ, les Illuminati. Oui. Le monde est dominé par ce truc-là, etc. Donc moi, voilà, j'avais trouvé même un site, là, enfin, Facebook, il n'y avait pas beaucoup d'amis, mais qui était djihad contre les Illuminati et tout ça. Et ceci dit, dans beaucoup de gens qui font, le terme est ignoble, parce que moi, je ne veux pas du tout être déradicalisé, je me sens radical et je suis fier de l'être, mais dans les trucs de déradicalisation de l'obscurantisme djihadiste, eh ben, l'air de rien, ils disent tous... que ça, c'est un des canaux imaginaires par lequel ça passe.
Mais alors, du coup, on a du mal à savoir. Elles sont problématiques, toutes ces vidéos qu'on a regardées depuis le début de l'émission, ou pas ? Parce que vous avez l'air de dire, bon, ben, ça passe, finalement, une fois qu'on a cessé d'être ado, on a cessé d'être élu.
Je suis entre les deux.
Voilà.
Et je suis entre
alors
les
que
deux.
Ça a l'air d'avoir des conséquences dramatiques quand on vous entend depuis le début de l'émission, et du coup, on ne sait pas comment il faut les regarder, comment il faut les interpréter, comment...
Moi je crois que, comme dans tous ces éléments-là, soit... c'est un jeu qui sera de faible intensité, de faible influence surtout, et moyennement pris au sérieux par les jeunes crédules, si finalement la faculté critique et de compréhension du monde s'épanouit par d'autres canaux dans la société. Voilà. Et c'est vrai que, j'ai 52 ans, donc j'ai vécu l'après 1989, la chute du mur de Berlin, fin de l'histoire, fin des idéologies... Ça y est, on est dans la mère nature et sa dérégulation naturelle magnifique d'un capitalisme qui nous épanouit, qui nous... etc. Ben, à un moment donné, ce type d'idéologie et de management par le Père Noël et la peur, là, l'air de rien, ça produit de la frustration. Ça produit de la connerie. Et ça produit le fait qu'en fait, pour réarriver à... Si on lit 1984, c'est ça, c'est un monde où il n'y a plus de pensée critique. Eh ben, quand on reconstitue une appréhension critique, pas forcément politique, sur plein d'autres domaines, eh ben, l'air de rien, on peut, y a des voies sans issue de la pensée critique. Il y a des conneries dans la pensée critique. Et donc, moi, qui suis, je ne m'en cache pas, plutôt libertaire, etc., je suis donc particulièrement attentif aussi à la connerie de la pensée critique, à la gauche de la gauche, de la gauche, de la gauche. J'y suis attentif.
Donc le complotisme, c'est une voie sans issue.
Le complotisme, il y en a dans tous les milieux, dans toutes les bords, etc. Il ne faut pas essayer de se dire qu'il passe de là à là. Et le complotisme facho est encore extrêmement puissant. Ça ne faut pas croire qu'il est impuissant. Et les trois quarts des vidéos, elles ont été faites par qui ? Les vidéos illuministes. Elles n'ont pas tellement été faites par M. Besancenot ou par je sais pas quoi. Elles ont toutes été faites par des gens d'extrême droite.
Qu'est-ce qu'on en sait?
Ça, c'est évident.
Comment on le sait? Je veux dire, c'est anonyme.
C'est très simple, c'est que vous regardez les télés qui les passent, les télés privées américaines, etc. Les mecs, là, ils se cachent pas de qui les produit. Et c'est tous...
Aux États-Unis.
Aux États-Unis, c'est là. Mais vous avez vu les mises en scène sonores et tout ça. Tout ça, c'est du bas de gamme hollywoodien, etc. Et c'est fabriqué par des gens qui, sur à la fois soit le site d'hébergement, soit les télés qui les passent, ils s'en cachent pas, quoi. Et c'est des gens qui font partie, qui sont à la droite du Tea Party américain. Mais ces trucs-là peuvent être adorés dans les banlieues françaises aussi. Voilà. Donc c'est là où est la confusion. Enfin, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Et le travail de ce que vous faites, hein, qui est, c'est ici, par exemple, c'est un lieu où on essaye de déployer, de déplier, c'est pas pour vous faire des fleurs, mais c'est un lieu de pensée critique au sens, je trouve, le plus utile pour essayer d'enlever les domaines de confusion et de trier, non pas le bon grain de l'ivraie, mais la connerie d'autres pensées qui ont le droit à leur diversité.
Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui avec vous, en espérant être entendu. Très bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Alors, vous y avez fait allusion brièvement aux extraterrestres et à Roswell, et justement, les extraterrestres et Roswell seront le prochain domaine dans lequel on va essayer, ce sera la semaine prochaine, de trier le bon grain et l'ivraie, ça promet. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.